confortable.
Parce que je préférais un peu distant.
Donc, la compagnie Gutenberg remercie la résidence des thermes de nous accueillir pour un cycle de lecture chaque mois et jusqu'en octobre. Avec mon amie Janine, professeure de français à la retraite, nous avons initié ces lectures à voix haute. Aujourd'hui, elle ne peut être là, malheureusement. Donc, c'est ma fille Elsa
qui la remplace.
Nous vous proposons deux extraits de deux nouvelles de Daniel Pénac qui sont en phase avec l'actualité. Chagrin d'école et comme un roman. L'auteur y livre de manière romanesque, souvent humoristique, les affres douloureuses du cancre qu'il fut avant de devenir un des grands écrivains de notre époque. Voilà.
Donc, on va commencer avec Chagrin d'école. Je me dis si tu es prête.
Oui.
Je te laisse. Commençons par l'épilogue. Maman, quasi centenaire, regardant un film sur un auteur qu'elle connaît bien. On voit l'auteur chez lui, à Paris, entouré de ses livres dans sa bibliothèque, qui est aussi son bureau. La fenêtre ouvre sur une cour d'école, raffut de récré. On apprend que pendant un quart de siècle, l'auteur exerça le métier de professeur et que s'il a choisi cet appartement donnant sur deux cours de récréation, c'est à la façon d'un cheminot qui prendrait sa retraite au-dessus d'une gare de triage. Puis on voit l'auteur en Espagne, en Italie, discutant avec ses traducteurs, blaguant avec ses amis vénitiens et sur le plateau du Vercors, marchant, solitaire, dans la brume des altitudes, parlant métier, langue, style, personnage, etc. Retour à Paris. L'auteur, derrière son ordinateur, parmi ses dictionnaires cette fois. Il en a la passion, dit-il. On apprend d'ailleurs, et c'est la conclusion du film, qu'il est entré dans le dictionnaire, le Robert, à la lettre P, sous le nom de Pénac. De son nom entier, Pénacchione, Daniel de son prénom.
Maman, donc, regarde le film, en compagnie de mon frère Bernard, qui l'a enregistré pour elle. Elle le regarde d'un bout à l'autre, immobile dans son fauteuil, l'œil fixe, sans piper mot, dans le soir qui tombe. Fin du film, générique, silence. Se tournant lentement vers Bernard, elle demande « Tu crois qu'il s'en sortira un jour ?» C'est que je fus un mauvais élève et qu'elle ne s'en est jamais tout à fait remise. Aujourd'hui, que sa conscience de très vieille dame quitte les plages du présent pour refluer doucement vers les lointains archipels de la mémoire, les premiers récifs à ressurgir lui rappellent cette inquiétude qui la rongea pendant toute ma scolarité. Elle pose sur moi un regard soucieux et lentement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Très tôt, mon avenir lui parut si compromis qu'elle ne fut jamais tout à fait assurée de mon présent. J'étais son enfant précaire. Elle me savait pourtant tirer d'affaire depuis ce mois de septembre 1969 où j'entrais dans ma première classe en qualité de professeur. Mais pendant les décennies qui suivirent, c'est-à-dire pendant la durée de ma vie adulte, son inquiétude résista secrètement à toutes les preuves de réussite que lui apportaient mes coups de téléphone, mes lettres, l'apparition de mes livres ou le passage chez Pivot. Certes, elle se réjouissait de mes succès, en parlait avec ses amis, convenait que mon père mort avant de les connaître en aurait été heureux, mais dans le secret de son cœur demeurait l'anxiété qu'avait fait naître à jamais le mauvais élève du commencement. Ainsi s'exprimait son amour de mère. quand je la taquinais, sur les délices de l'inquiétude maternelle, elle répondait joliment par une blague de Woody Allen. Que veux-tu ? Toutes les juives ne sont pas mères, mais toutes les mères sont juives. Et aujourd'hui, que ma vieille mère juive n'est plus tout à fait dans le présent, c'est de nouveau cette inquiétude qu'expriment ses yeux quand ils se posent sur son petit dernier de 60 ans. Tu as un appartement à Paris ?
Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison, poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Et quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier. Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, leçons non apprises, travail non fait, je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire. Tu comprends ? Non, est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique ? Je ne comprenais pas. Et cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines. Mon apprentissage de l'alphabet. J'ai toujours entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lettre A. La lettre A. En un an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable B.
Pas de panique. Dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Ainsi, ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien des années plus tard, comme je redoublais ma terminale à la poursuite d'un baccalauréat qui m'échappait obstinément, il aura cette formule. Ne t'inquiète pas, même pour le bac, on finit par acquérir des automatismes. Ou, en septembre 1968, ma licence de lettres enfin en poche. Oh, il t'aura fallu une révolution pour la licence. Doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation ? Cela dit, son méchanceté particulière, c'était notre forme de connivence. Nous avons assez vite choisi de sourire, mon père et moi. J'étais un objet de stupeur, et de stupeur constante, car les années passaient sans apporter la moindre amélioration de mon état d'hébétude scolaire. Le bras m'en tombe, je n'en reviens pas, me sont des exclamations familières associées à des regards d'adultes où je vois bien que mon incapacité à assimiler quoi que ce soit creuse un abîme d'incrédulité. Apparemment, tout le monde comprenait plus vite que moi. Tu es complètement bouché.
Un après-midi de l'année du bac, une des années du bac, mon père me donnant un cours de trigonométrie dans la pièce qui nous servait de bibliothèque, notre chien se coucha en douce sur le lit, derrière nous. Repéré, il fut sèchement viré. Dehors, le chien, dans ton fauteuil. 5 minutes plus tard, le chien était de nouveau sur le lit. Il avait juste pris le soin d'aller chercher la vieille couverture qui protégeait son fauteuil et de se coucher sur elle. Admiration générale, bien sûr, et justifiée qu'un animal pût associer une interdiction à l'idée abstraite de propreté et en tirer la conclusion qu'il fallait faire son lit pour jouir de la compagnie des maîtres. Chapeau, évidemment. Un authentique raisonnement. Ce fut un sujet de conversation familiale qui traversa les âges. Personnellement, j'en tirai l'enseignement que même le chien de la maison put piger plus vite. moi. Je crois bien lui avoir murmuré à l'oreille. Bon, et demain, c'est toi qui vas au bahut, hein, lèche-cul.
2 messieurs d'un certain âge se promènent au bord du Loup, leur rivière d'enfance. 2 frères, mon frère Bernard et moi. Un demi-siècle plus tôt, ils plongeaient dans cette transparence. Ils nageaient parmi les chevelles que leur chalut n'effrayait pas. La familiarité des poissons donnait à penser que ce bonheur durerait toujours.
J'annonce à Bernard que je songe à écrire un livre concernant l'école. Ah, non pas l'école qui change dans la société qui change, comme a changé cette rivière, mais au cœur de cet incessant bouleversement sur ce qui ne change pas, justement, sur une permanence dont je n'entends jamais parler. La douleur partagée du cancre, des parents et des professeurs, l'interaction de ces chagrins d'école.
Vaste programme. Et comment vas-tu t'y prendre ?
En te cuisinant, par exemple. Quel souvenir gardes-tu de ma propre nullité, disons en maths ? Mon frère Bernard était le seul membre de la famille à pouvoir m'aider dans mon travail scolaire, sans que je me verrouille comme une huître. Nous avons partagé la même chambre jusqu'à mon entrée en 5e, où je fus mise en pension.
En maths, ça a commencé avec l'arithmétique. Un jour, je t'ai demandé quoi faire d'une fraction que tu avais sous les yeux. Tu m'as répondu automatiquement, il faut la réduire au dénominateur commun. Il n'y avait qu'une fraction, donc un seul dénominateur. Mais tu n'en démordais pas. J'insistais. Réfléchis un peu, Daniel. Daniel, il n'y a là qu'une seule fraction, donc un seul dénominateur. Oh, tu t'es foutu en rogne. C'est le prof qui l'a dit. Les fractions, il faut les réduire au dénominateur commun.
Et les deux messieurs de sourire le long de leur promenade. Tout cela était très loin derrière eux. L'un d'eux a été professeur pendant 25 ans. 2500 élèves à peu près, dont un certain nombre en grande difficulté, selon l'expression consacrée.
Un livre de plus à l'école, alors ? Tu trouves qu'il n'y en a pas assez ?
Ah, mais pas sur l'école. Tout le monde s'occupe de l'école. Éternelle querelle des anciens et des modernes. Ses programmes, son rôle social, ses finalités, l'école d'hier, celle de demain. Non, un livre sur le cancre, sur la douleur de ne pas comprendre.
Tu n'en as pas vu tant que ça.
Non. Peux-tu me dire autre chose sur le cancre que j'étais ?
Ok. Tu te plaignais de ne pas avoir de mémoire. Les leçons que je te faisais apprendre le soir s'évaporaient dans la nuit. Le lendemain matin, tu avais tout oublié.
Le fait est, je n'imprimais pas, comme disent les jeunes gens d'aujourd'hui. Je ne captais ni imprimais. Les mots les plus simples perdaient leur substance dès qu'on me demandait de les envisager comme objet de connaissance. Si je devais apprendre une leçon sur le massif du Jura, par exemple, plus qu'un exemple, c'est en l'occurrence un souvenir très précis. Ce petit mot de 2 syllabes se décomposait aussitôt jusqu'à perdre tout rapport avec la Franche-Comté, l'horlogerie, les vignobles, les pipes, l'altitude, les vaches, les rigueurs de l'hiver ou simple montagne. Il ne représentait plus rien. Jura, me disais-je. Jura ? Jura ? Et je répétais le mot inlassablement, comme un enfant qui n'en finit pas de mâcher. Mâcher et ne pas avaler. Et répéter et ne pas assimiler. Jusqu'à la totale décomposition du goût et du sens. Mâcher, répéter, jura, 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 jusqu'à ce que le mot devienne une masse sonore indéfinie, sans le plus petit reliquat de sens. Et c'est ainsi qu'on s'endort sur une leçon de géographie.
Tu prétendais détester les majuscules.
Oh, terrible sentinelle, les majuscules. Il me semblait
rappeler
qu'elle se dressait entre les noms propres et moi pour m'en interdire la fréquentation. Non, tout mot frappé d'une majuscule était voué à l'oubli instantané. Ville, fleuve, bataille, héros, traité, poète, galaxie, théorème. Interdit de mémoire pour cause de majuscule tétanisante. Halte là ! S'exclamait la majuscule. On ne franchit pas la porte de ce nom. Il est trop propre. On n'en est pas digne. On est un crétin. Un crétin minuscule.
Tu te racontais des histoires, en somme ?
Oui. C'est le propre des cancres. Ils se racontent en boucle l'histoire de leur cancrerie. Je suis nul. J'y arriverai jamais. Même pas la peine d'essayer, c'est foutu d'avance. Ben, je vous l'avais bien dit, l'école n'est pas faite pour moi. L'école leur paraît un club très fermé dont ils s'interdisent l'entrée, avec l'aide de quelques professeurs parfois.
Deux messieurs d'un certain âge se promènent le long d'une rivière. En bout de promenade, ils tombent sur un plan d'eau cerné de roseaux et de galets. Bernard demande « Daniel, tu es toujours aussi bon, ricochet ?»
D'où venait ma cancrerie ? Enfant de bourgeoisie d'État, issu d'une famille aimante, sans conflit, entouré d'adultes responsables qui m'aidaient à faire mes devoirs, père polytechnicien, mère au foyer, pas de divorce, pas d'alcoolique, pas de caractériel, pas de tare héréditaire, trois frères bacheliers, des matheux, bientôt deux ingénieurs et un officier. Et pourtant, un cancre. Pas d'explication non plus à tirer de l'historique familial. C'est une progression sociale en trois générations grâce à l'école laïque, gratuite et obligatoire. Ascension républicaine, en somme. Victoire à la Jules Ferry. Ah, un autre Jules. L'oncle de mon père, l'oncle Jules Pennacchioni, mena au certificat d'études les enfants de Guargalet et de Pilacanan, les villages corses de la famille. On lui doit des générations d'instituteurs, de facteurs, de gendarmes et autres fonctionnaires de la France coloniale ou métropolitaine. Peut-être aussi quelques bandits. Mais il en aurait fait des lecteurs. L'oncle, dit-on, faisait faire des dictées et des exercices de calcul à tout le monde et en toutes circonstances. On dit aussi qu'il allait jusqu'à enlever les enfants que leurs parents obligeaient à sécher l'école pendant la cueillette des châtaignes. Il les récupérait dans le maquis, les ramenait chez lui et prévenait le père esclavagiste. « Je te rendrai ton garçon quand il aura son certificat. » Alors, si c'est une légende, je l'aime. Je ne crois pas qu'on puisse concevoir autrement le métier de professeur. Tel était l'oncle.
Pourtant, trois générations plus tard, moi, le cancre, la honte de l'oncle, s'il avait su, par bonheur, il mourit avant de me voir naître. Non seulement mes antécédents m'interdisaient toute cancrerie, mais dernier représentant d'une lignée de plus en plus diplômée, j'étais socialement programmée pour devenir le fleuron de la famille. Eh bien non, un cancre sans fondement, sans raison sociologique, sans désamour, un cancre en soi. Pourquoi ? Je fouille le fatras de mes vieux papiers à la recherche de mes bulletins scolaires et de mes diplômes. Et je tombe sur une lettre conservée par ma mère. Elle est datée de février 1959. J'avais 14 ans depuis 3 mois. J'étais en quatrième. Je lui écrivais de ma première pension. Ma chère maman, moi aussi j'ai vu mes notes. Je suis écœurée. J'en ai plein le dos. Quand on en est venu au point de travailler 2 heures sans arrêt pendant une étude pour récolter un à un devoir d'algèbre que l'on croyait bon, il y a de quoi être découragé. Aussi ai-je tout lâché pour réviser mes examens et mon 4 en application, explique sûrement la révision de mon examen de géologie pendant mon cours de maths. Je ne suis pas assez intelligent et travailleur pour continuer mes études. Ça ne m'intéresse pas. J'attrape mal au crâne à rester enfermé dans la paperasse. Je ne comprends rien à l'anglais, à l'algèbre, je suis nulle. En orthographe, que reste-t-il ?
10 ans plus tard,
toujours dans la même lettre, j'écrivais : vous avez eu trois fils intelligents et travailleurs, un autre un cancre, un feignant. Suivez une étude comparée des performances de mes frères et des miennes et une vigoureuse supplique pour qu'on arrête le massacre et qu'on me retire de l'école.
10 ans plus tard, le 30 septembre 1969, je recevais une lettre de mon père, adressée au collège où j'exerçais depuis un mois le métier de professeur. C'était mon premier poste, et c'était sa première lettre au fils devenu. Il sortait de l'hôpital, il me disait les douceurs de la convalescence, ses lentes promenades avec notre chien, et me donnait des nouvelles de la famille. Pas plus qu'il ne m'avait menacé d'un avenir calamiteux pendant ma scolarité, il ne faisait la moindre allusion à mon passé de cancre. Sur la plupart des sujets, son ton était comme à l'habitude, pudiquement ironique. Et il ne semblait pas considérer que mon nouvel état de professeur méritât qu'on s'en étonne, qu'on m'en félicite ou qu'on s'en inquiète pour mes élèves. Bref, mon père, tel qu'en lui-même, ironiste et sage, désireux de bavarder avec moi, à distance respectable, de la vie qui se continuait. J'ai l'enveloppe de cette lettre sous les yeux. Aujourd'hui seulement, un détail me frappe. Il ne s'était pas contenté d'écrire mon nom, le nom du collège, suivi de la rue et de la ville. Il y avait ajouté la mention « professeur ». Daniel Pennacchioni, professeur au collège. Professeur de son écriture si exacte. Il m'aura fallu une existence entière pour entendre ce hurlement de joie et ce soupir de soulagement.
10 années donc s'étaient écoulées entre la lettre calamiteuse que j'avais écrite à ma mère et celle que mon père envoyait à son fils professeur. Les 10 années où je suis devenue. À quoi tient la métamorphose du cancre en professeur? Et accessoirement, celle de l'analphabète en romancier? Comment suis-je devenue? Autant de questions qui permettent d'éviter le sujet. Si ce que vous écrivez de votre cancrerie est vrai, pourrait-on m'objecter, cette métamorphose est un authentique mystère. À ne pas y croire, en effet. C'est d'ailleurs le lot du cancre. On ne le croit jamais. Pendant sa cancrerie, on l'accuse de déguiser une paresse vicieuse en lamentation commode. Arrête de nous raconter des histoires. Et travaille. Et quand sa situation sociale atteste qu'il s'en est sorti, on le soupçonne de se faire valoir. Vous, un ancien cancre? Allons donc vous vanter. Le fait est que le bonnet d'âme se porte volontiers à posteriori. Naguère, on représentait le cancre debout, compliqué, un bonnet d'âme vissé sur la tête. Cette image ne stigmatisait aucune catégorie sociale particulière. Elle montrait un enfant parmi d'autres, mis au coin pour n'avoir pas appris sa leçon, pas fait son devoir, ou pour avoir chahuté le pion. Aujourd'hui, et pour la première fois de notre histoire, c'est toute une catégorie d'enfants et d'adolescents qui sont quotidiennement, systématiquement stigmatisés comme le cancre emblématique. On ne les met plus au coin, on ne leur colle plus de bonnet d'âme. Le mot cancre lui-même est tombé en désuétude. Le racisme est réputé une infamie. Mais on les filme sans cesse. Mais on les désigne à la France entière. Mais on écrit sur les méfaits de quelques-uns d'entre eux des articles qui les prétendent tous comme un inguérissable cancer au flanc de l'éducation nationale. Non content de leur faire subir ce qui s'apparente à un apartheid scolaire, il faut en prime que nous les appréhendions comme maladie nationale. Ils sont toute la jeunesse de toutes les banlieues. Cancre, tous, dans l'imaginaire du public. Cancre et dangereux. L'école, c'est eux, puisqu'on ne parle que d'eux lorsqu'on parle de l'école. Puisqu'on ne parle de l'école que pour parler d'eux.
Entendre parler de l'école aujourd'hui, c'est essentiellement entendre parler de lui. 12 400 000 jeunes français sont scolarisés chaque année, dont environ 1 million d'adolescents issus des immigrations. Mettons que 200 000 soient en échec scolaire rédhibitoire. Combien sur ces 200 000 ont-ils basculé dans la violence verbale ou physique ? Insulte au professeur, dont la vie devient en enfer, menaces, coups, dépradation de locaux, etc. Le quart, 50 000, bon, admettons. Il s'ensuit que sur une population de 12 400 000 élèves, 0,4% suffisent à alimenter l'image de Maximilien, le fantasme horrifiant du cancre dévoreur de civilisation qui monopolise tous nos moyens d'information dès qu'on parle de l'école et enfièvre toutes les imaginations, y compris les plus réfléchies. Alors, adolescents issus d'une cité ou d'une quelconque barre de quartier périphérique, black, beurre ou gaulois relégué, grands amateurs de marques et de téléphones portables, électrons libres mais qui se déplacent en groupe, encapuchonnés jusqu'au menton, tagueurs de mire ou de RER, amateurs d'une musique cachée aux paroles vengeresses, parlant fort et réputés tapés de rue, présumés casseurs, dealers, incendiaires ou grêles d'extrémistes religieux, Maximilien est la figure contemporaine des faubourgs d'antan. Maximilien est à la fois l'image de ce qui fait peur et celle de ce qui fait ventre. Le héros des films les plus violents et le vecteur des marques les plus portées. Maximilien est confiné aux marges des grandes villes, son image, elle, est diffusée jusqu'au cœur le plus cossu de la cité. Et c'est avec horreur que le bouffon voit ses propres enfants s'habiller comme Maximilien, adopter le sabir de Maximilien, et même, comble de l'épouvante, accorder sa voix au son émis par la voix de Maximilien. De là à hurler à la mort de la langue française et à la fin prochaine de la civilisation, il n'y a qu'un pas, vite franchi, avec une peur d'autant plus délicieuse qu'au fond de soi, c'est Maximilien que l'on s'est sacrifié. Ouais. Ça, c'était Chagrin d'accord. Attends, on a un autre.